Radio Okapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kabambi à la présentation.
Le coordonnateur national du programme Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation, PDD-RCS, est révoqué de son poste ce mardi 23 juillet sur ordonnance présidentielle. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya affirme qu'aucune personne n'a été mandatée par le gouvernement pour une quelconque forme de discussion avec les terroristes du M23 à Kampala, en Ouganda. Quelques heures avant l'annonce de cette décision, l'abbé Jean Bosco Baal a fait un communiqué de presse où il explique qu'il est en mission à Kampala en vue du rapatriement des enfants congolais libérés par les rebelles de la LRA en République centrafricaine. Les habitants de Fungurume et ses environs ne doivent aucunement consommer les poissons pêchés dans la rivière Kelangile ou encore ramassés aux abords de ce cours d'eau jusqu'à nouvel ordre. Selon le bourgmestre de Fungurume, un camion a déversé de l'acide dans la rivière Kelangile à la suite d'un accident de circulation. La société civile locale demande à toute la population de respecter scrupuleusement cette décision pour préserver les vies humaines. L'invité de ce journal, c'est le ministre provincial et porte-parole du gouvernement du Sud-Kivu, Didier Bachizi, revient sur ce qui a motivé la mesure prise par le gouverneur de province de suspendre toutes les activités minières sur toute l'étendue de cette province jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir à tous. Sur ordonnance présidentielle, l'abbé Jean Bosco Baala est relevé de ses fonctions de coordonnateur national du programme Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation PDD-RCS. Quelques heures avant l'annonce de cette décision, l'abbé Jean Bosco Baala a fait un communiqué de presse dans lequel il explique qu'il est en mission à Kampala en Ouganda. Selon lui, cette mission a pour but d'engager des discussions avec l'Ouganda pour le rapatriement des enfants congolais libérés par les rebelles de la LRA en République centrafricaine. Il affirmait participer à la présentation des activités de profilage ethnique et d'identification des LRA congolais dans le cadre du DDRRR. Par ailleurs, certaines sources ont partagé hier lundi les informations relatives à une rencontre entre une délégation de l'Alliance Fleuve Congo AFC, rébellion dirigée par Corneille Nangaa, et une délégation du PDD-RCS à Kampala. Des affirmations rejetées par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Selon Patrick Muyaya, je le cite, « Aucune personne n'a été mandatée par le gouvernement pour une quelconque forme de discussion avec les terroristes du M23 à Kampala ». Fin de citation. Comme dit dans le sommaire, les habitants de Fungurume et ses environs dans la province du Lualaba sont invités à ne pas consommer les poissons pêchés dans la rivière ou ramassés aux abords de la rivière Kelangile jusqu'à nouvel ordre. Cette décision du bourgmestre de Fungurume est prise à la suite du déversement de l'acide dans cette rivière par un camion citerne qui a connu un accident de circulation dimanche dernier dans cette entité. Ce camion partait de Lubumbashi vers Kolwezi. La société civile locale demande à toute la population de respecter scrupuleusement cette décision pour préserver les vies humaines. Gauthier Mwamba, du cadre de concertation de la société civile de Fungurume, est joint par Jean Gandou.
Il y a un camion citerne rempli d'acide qui s'est renversé et déversé ces acides vers le champ des maraîchers jusqu'à atteindre la rivière Kelangile où il y a eu ramassage de beaucoup de poissons qui sont morts et même les enfants étaient en train de les ramasser. C'est à ce niveau que nous lançons un SOS à la communauté de Fungurume et ses environs de ne pas manger ces poissons ni aller les vendre à d'autres personnes qui ne savent pas qu'il y avait accident. Et nous lançons au même moment une proposition aux décideurs de pouvoir commencer à transporter les acides et les carburants à partir du train SNCC que d'emprunter les routes parce que les forfaits sont nombreux. Il y a un autre qui s'était déversé à Ngouba, l'autre est à Kapombo, toujours sur la RN39. Donc, il y a plusieurs victimes derrière, il y a même des morts que nous déplorons jusqu'ici. Mais au niveau de Fungurume, heureusement, on n'en a pas compté. C'était dimanche, vers 21h, que l'accident a eu lieu.
La RDC est un pays immensément riche avec une population extrêmement pauvre. Ce paradoxe est encore évoqué lors de la 3e édition de la Conférence nationale de la microfinance, ouverte hier lundi ici à Kinshasa. Le secteur de la microfinance se propose d'y apporter sa contribution en vue de réduire tant soit peu cette pauvreté en proposant notamment à la population congolaise des services et produits financiers adaptés à ses besoins. C'est le sens même que les organisateurs donnent à cette 3e édition de la Conférence nationale régional de la microfinance. Daniel Tambinzoni.
L'apport du secteur de la microfinance pour réduire la pauvreté en RDC est croissant d'une année à l'autre et c'est la Banque centrale du Congo qui le reconnaît à travers ces statistiques livrées par M. Ramazani, directeur à la Banque centrale du Congo. Il a représenté Mme le gouverneur de la BCC à cette conférence.
En ce qui concerne l'évolution du secteur de la microfinance à fin décembre 2023, il importe de relever une croissance de 28% du niveau général des activités entre 2023 et 2024. Ainsi donc, le total du bilan du secteur de la microfinance est passé de l'équivalent en francs congolais de 454 millions en 2022 à 583 millions en 2023. Les crédits s'établissent aujourd'hui à fin décembre 2023 à 369 millions de dollars contre 283 millions en 2022, soit une croissance ou un accroissement de 30%.
Cependant, cette contribution de la microfinance pour encadrer tous les exclus des services financiers classiques est butée à la fracture numérique et le coût encore élevé de l'Internet dans le pays. Ainsi, la Banque mondiale, l'un des partenaires financiers du secteur, promet de trouver avant la fin de cette année 2024 un partenaire qui pourrait assurer la digitalisation de tous les services financiers des institutions de microfinance et des coopératives d'épargne et de crédit.
Toujours en économie, au Kasaï oriental, on signale la hausse du prix du maïs dans les différents marchés de la ville de Mbujimayi. La mesurette de 3,5 kg de maïs s'est négociée actuellement entre 5 500 et 6 000 francs congolais. Pourtant, il y a un mois, elle coûtait 4 000 francs congolais. Les vendeuses de maïs évoquent les difficultés rencontrées pour acheminer leurs marchandises en Mbujimayi comme raison de cette hausse de prix. Mais la Fédération des entreprises du Congo FEC parle, elle, d'une faible récolte lors de la saison culturelle B depuis Mbujimayi.
Sur le marché, les camions transportant le maïs en provenance des différents centres de production ne sont pas nombreux. La mesurette se négocie entre 5 500 et 6 000 francs congolais. Explication de Elisabeth Mouadi, vendeuse de maïs.
Les prix ont augmenté à partir de là où nous achetons. Il faut ajouter les frais de transport et de séjour. Voilà pourquoi on vend à 5 500.
Au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, on évoque les problèmes de perturbations climatiques. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC.
La saison culturelle B n'était pas vraiment bonne. Il y a eu trop de pertes, il y a eu trop de ratés. Et c'est ce qui fait que la quantité disponible n'est pas même de couvrir les besoins de consommation de notre population.
Côté consommateur, les avis sont partagés par rapport à cette hausse. Monique Chitenga est ménagère.
Selon les taux de dollars en ce jour, moi je trouve que le prix est normal. Parce que ces gens-là ont aussi besoin d'avoir l'argent pour aller aussi payer d'autres denrées alimentaires.
Thérèse Tomba déplore cette hausse de prix de maïs.
Je n'apprécie pas ça. Je suis enseignant. On me paye 180 000 francs. Je loue la maison. Je peux acheter combien de mécas pour arriver à la fin.
Pendant que les prix de maïs a augmenté, les prix des produits manufacturés ont baissé car ils sont en abondance sur les marchés. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Lutte contre les Kulunas, le banditisme et les embouteillages à Kinshasa était au centre du premier conseil provincial de sécurité tenu hier lundi par le gouverneur de la ville. Daniel Bumba a donné des instructions fermes aux membres du conseil pour l'éradication de ces phénomènes. C'est en tout cas ce qu'indique le ministre provincial de l'Intérieur. Papi Moussey revient sur l'essentiel de cette rencontre à laquelle a pris part aussi le commissaire provincial de la police. On l'écoute.
La rencontre était d'abord une prise de contact entre son excellence, le gouverneur de la ville et le conseil de sécurité. Il était question, bien entendu, de parler de la sécurité de la ville, que cette recrudescence du taux de criminalité et du banditisme urbain qu'il y avait. Il était important que l'autorité nous donne ses orientations pour pouvoir résorber très rapidement ce problème. Aussi le problème des embouteillages et d'autres qu'on a pu évoquer ensemble. Les actions prioritaires ont été données par l'autorité au commissaire provincial de la ville.
Pendant ce temps en Ituri, les forces conjointes FRDC armées ougandaises ont pilonné dimanche plusieurs positions des ADF dans la forêt du Mont Oyo, dans la chefferie de Walesevonkutu, dans le sud du territoire d'Irumu. Selon le porte-parole des opérations Ushuja, l'objectif est de démanteler les bastions de ces rebelles qui s'attaquent à la population. Le colonel Maka Azukai indique que plusieurs otages qui étaient retenus pendant plusieurs mois par ces hors-la-loi ont été libérés. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme salue cette cette action et demande aux forces conjointes de poursuivre la traque de ces rebelles dans leur retranchement pour les empêcher de se réorganiser. Christophe Mouniadero est joint au téléphone par Martial Kizabiamungo depuis Komanda.
Pour nous, c'est une grande joie et surtout la population d'ici le territoire d'Irumu, vu que les opérations qui sont menées là-bas ont donné de bons résultats et surtout la libération tout d'abord de certains otages, parce que parmi ces otages, il y a ceux-là qui ont passé 2 ans avec l'ennemi. Mais voilà, grâce à ces opérations, ils ont été libérés. Et voir aussi détruire les bastions qui étaient dans les côtés des Zunguluka, parce que nous avons toujours dit que c'est Walese Vokutu qui est l'épicentre de ces ADF. Quel que soit l'ennemi veut traverser vers les côtés, l'ennemi s'est dispersé dans cette forêt. Alors il faudrait qu'il y ait des patrouilles et des combats, aller approfondir dans la brousse pour afin qu'on puisse se rassurer que l'ennemi vraiment n'est plus dans cette entité, afin que ça puisse permettre à la population, à victime, de retourner.
Au sud Kivu, le tribunal militaire garnison d'Uvira, siégeant en chambre foraine à Mboko, dans le territoire de Fizi, a condamné 3 militaires FRDC à la peine capitale hier lundi. Ces militaires sont condamnés pour des infractions de meurtre, tentative de meurtre, violation des consignes et perte des munitions. Toutes ces infractions avaient été commises le 22 juin de l'année en cours dans le secteur de Tanganyika, groupement de Babungwe Nord, dans le territoire de Fizi. Jean Kassami.
Le verdict rendu hier semble apaiser les esprits de la population locale qui a vécu la tragédie du 22 juin lorsqu'un commando a tiré à bout portant sur un groupe de personnes rassemblées autour d'une table pour une causerie. Le membre de l'entité est mort sur le champ et sa femme grièvement blessée. 3 autres personnes, dont le commandant de l'unité phare de en place, avaient succombé. Le chef de la DGM du secteur de Tanganyika aussi. Les 3 personnes condamnées sont tous des militaires FRDC à qui le tribunal exige un paiement de 250 000 $ par victime à titre de dommages-intérêts, in solidum avec l'État congolais. Le tribunal accorde un délai de 5 jours aux concernés pour interjeter appel. Les 3 militaires condamnés étaient respectivement garde du corps de feu Moïse Charles Simbi, de fait sergent FRDC. Le 4e suspect, un officier FRDC, est en cavale. Jean Kassami, Bukavu Radio Okapi.
Toujours dans le chapitre sécuritaire dans l'ouest du pays, au Congo central, le gouverneur de province, Grace Nkwanga, appelle la police et les FRDC à renforcer leur engagement pour la protection de la population et de ses biens en conformité avec la constitution du pays. Appel lancé hier à l'occasion de la cérémonie de prise d'armes organisée au camp militaire Redjaf de Matadi, activité au cours de laquelle le nouveau gouverneur accompagné de tout son gouvernement a été présenté aux cadres et agents de la police et à ceux des forces armées. Dans son adresse devant ces 2 corps, Grace Nkwanga a aussi exprimé sa préoccupation sur l'insécurité croissante dans certaines zone de la province. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Je suis venu à votre rescousse pour vous accompagner à mener à bien votre mission de sécuriser la population et ses biens dans toute la province. Actuellement, l'insécurité bat son plein dans la province du Congo central. Mais seul, je ne parviendrai à rien. C'est pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous demander de redoubler d'efforts pour éradiquer l'insécurité dans la province entière ainsi que dans la ville de Matadi. Je suis désolé de voir comment les enfants des policiers et ceux des forces armées sont cités dans les antivaleurs. Sur ce, je vous exhorte d'assumer pleinement votre rôle de parents afin de bien encadrer mes frères là pour qu'ils contribuent à l'avancement de la province. Je ferai un effort de m'approcher d'eux et je leur donnerai du travail.
Environ 200 cas d'accidents de circulation routière avec 20 décès sont répertoriés depuis le début de l'année par la police de circulation routière à Bunia en Ituri. Ces chiffres sont contenus dans un rapport semestriel rendu public hier par ce service étatique. Le responsable de la sécurité routière à Bunia attribue ces accidents notamment à la fluidité du trafic routier à la suite de la modernisation de la voirie urbaine. Le commandant ville de la police saisit l'occasion de la publication de ce rapport pour interdire toute manifestation des réjouissances des jeunes diplômés sur la voie publique lors de la publication prochaine des résultats de l'examen d'État pour prévenir des accidents. Ezekiel Mouzalia.
La police de circulation routière à Bounia déplore le non-respect du nouveau code de la route par certains conducteurs des véhicules et taximotos sur les boulevards de la Libération. Cela malgré l'installation depuis plus d'un an des feux de signalisation et de marquage pour réglementer la circulation routière. Selon les responsables de la sécurité routière, 197 cas d'accidents sont notifiés depuis les mois de janvier, dont une vingtaine de décès. Paulin Tandema.
On dit, quand vous conduisez, ne buvez pas. Mais un conducteur qui est déjà ivre, ça peut lui conduire à un accident de circulation. Dans les agglomérations, quand vous roulez à vive allure, au-delà de 40 km à l'heure, pourtant dans les agglomérations, la densité de trafic est assez considérable.
Pour prévenir des cas d'accidents devenus fréquents et les troubles à l'ordre public, le commandant ville de la police met en garde des jeunes diplômés qui vont se mécomporter sur la voie publique lors de la publication des résultats de l'examen d'État. Le colonel Abeli Mwangu.
Étant donné qu'il s'observe pendant ces moments un comportement antisocial de la part de ses élèves finalistes, il est strictement interdit des manifestations non autorisées dans la rue. Quiconque enfreindra la présente disposition, trouvera la police sur son chemin.
Au moins 35 km des routes urbaines sont déjà réhabilitées grâce aux efforts du gouvernement central. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et en rapport justement avec la publication des résultats de l'examen d'État, notez qu'au Kasaï central, la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL, appelle les parents à prendre des mesures d'encadrement des enfants pendant cette période des publications. La publication des résultats de l'examen d'État débute en effet à partir de demain mercredi, selon la planification du ministère de l'Éducation nationale. D'après le coordonnateur provincial de cette structure, en dehors des cas d'accidents enregistrés pendant ces réjouissances, plusieurs filles sont aussi abusées. D'où la nécessité également pour la police nationale congolaise de se mobiliser pour éviter tout autre débordement. Les propos de Jean Malice Lungala sont recueillis par François Kadima.
Tenant compte de l'expérience de l'édition de la publication des résultats de la fois passée, où lorsqu'on avait publié les résultats des examens, les parents n'ont pas pu prendre les mesures d'encadrement des enfants. Les enfants étaient pratiquement abandonnés dans leur folie de joie, à tel point que certains enfants sont partis passer nuit même ailleurs. Dès lors qu'on va publier ces résultats, que les parents prennent les mesures pour que malgré la joie que les enfants sont encadrés, surtout les jeunes filles sortent, elles vont dans cette allégresse-là et elles sont abusées par les gens mal intentionnés. Nous en appelons à la responsabilité des parents. La police devrait être dans le point chaud des publications pour que les enfants soient très très bien encadrés. Puisque si l'État ne prend pas les mesures, la police ne prend pas les mesures, ça sera un débordement qui ne sera pas géré. Mais aussi les problèmes des motards qui vont me transporter ces enfants ici dans cette euphorie de joie-là, au lieu qu'on arrive à des accidents qui vont pouvoir encore préjudicier les enfants en arrivant à des conséquences qui ne sont pas bonnes pour l'état physique des enfants.
Actualité internationale.
En Éthiopie, un glissement de terrain hier dans le sud du pays a fait au moins 229 morts et ce bilan est encore provisoire. L'accident est survenu après des fortes pluies. Un pan entier d'une colline s'est détaché et la plupart des victimes ont été emportées par la boue alors qu'elles tentaient de porter secours à d'autres habitants. Au moins 15 soldats nigériens ont été tués lors des combats dans la zone de Tera, dans le sud-ouest du pays, près du Burkina Faso. Le bilan fait également état de 3 soldats disparus et de 21 terroristes tués lors des affrontements. Une unité des forces de défense et de sécurité nigérienne en opération s'est accrochée avec des groupes armés terroristes sur l'axe Bankilari-Tera aux abords du village de Foneko.
L'invité.
Notre invité vient du Sud Kivu. Didier Bachizi est le ministre provincial et porte-parole du gouvernement de cette province. Il explicite la motivation qui conduit le nouveau gouverneur Jean-Jacques Bourossi à suspendre toutes les activités minières jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du Sud Kivu. Didier Bachizi s'entretient avec Jean Kassami.
Bonjour monsieur le porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, maître Didier Kabi.
Bonjour monsieur Jean Kassami de la Radio Okapi.
Quelles sont, à votre avis, les raisons qui ont conduit les gouverneurs de province à suspendre les activités minières sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu?
En réaction à votre préoccupation et en trait à la motivation qui a conduit Son Excellence Monsieur le gouverneur de province à suspendre les activités minières au Sud Kivu, je voudrais réagir en précisant à l'ensemble de l'opinion, tant locale, nationale qu'internationale, que l'idée pour le gouverneur de province, dans sa motivation, c'était l'amélioration de la gouvernance minière en province et par conséquent permettre au gouvernement provincial de mobiliser les moyens de sa politique.
Est-ce une façon de dire que cette ribambelle d'exploitants locaux, nationaux et internationaux qui opèrent dans les secteurs miniers au site Kivu ne verse aucun sou dans les caisses du trésor public?
Vous savez avec moi que les défis constatés dans le cadre de l'exploitation minière au site Kivu sont notamment les caractères illégaux des entreprises qui travaillent sans être en ordre avec différents documents tels qu'exigés par la législation minière en vigueur au pays. Bien plus, il y a lié de soulever la problématique liée à la responsabilité sociétale des entreprises, car ces sociétés, la plupart à capitaux chinois, n'ont pas de cahier des charges avec les communautés locales. Ils n'ont aucune étude d'impact environnemental et social assortie de leurs plans de gestion environnementaux et sociaux. Bref, ils ne participent pas à aucune étape liée au développement de notre province. En outre, si nous devons parler des chaînes d'approvisionnement responsables de minerais, c'est anormal qu'un gouverneur de province nouvellement installé soit incapable d'identifier et de savoir, par exemple, la quantité des minerais qui sont produits dans sa province. Il y a des provinces qui vivent essentiellement sur les taxes et les redevances minières ici de l'exploitation minière artisanale et industrielle. C'est le cas par exemple de la province du Lualaba où le gouvernement de province actuellement mobilise autour de 90 millions de dollars justement dans les secteurs exclusifs de mines. Alors, nous ne savons pas comprendre le prédécesseur de son Excellence, Monsieur le gouverneur Jean-Jacques Pourroussi, ce qu'ils avaient fait avec toutes ces multinationales qui ont intervenu en province du site Kivu depuis plus de 10 ans, mais en tout cas qui ne participent à aucun niveau au développement de cette province.
L'autorité provinciale compte-t-elle prendre langue avec ces exploitants qui certainement se sentent impactés par la mesure?
Voilà pourquoi son Excellence, Monsieur le gouverneur, a demandé l'appui de toute la population du site Kivu afin que tout ce monde puisse se présenter à son cabinet de travail le 30 juillet 2024 afin qu'on puisse avoir un temps d'harmoniser le vie et de nous rassurer sur ceux qui sont dans les secteurs, comment ils travaillent. Et à l'issue de cette réunion, son Excellence Monsieur le Gouverneur prendra des mesures devant permettre à ceux qui sont en ordre de continuer leurs activités et ceux qui ne sont pas en ordre de voir comment est-ce qu'ils peuvent harmoniser préalablement afin de nous donner des garanties nécessaires devant nous permettre de nous rassurer qu'exactement ce qu'il faut, ça impacte positivement les vécu quotidien des populations qui sont impactées par les projets miniers en province. Voilà un peu l'idée qui a motivé son Excellence Monsieur le Gouverneur à prendre cette décision.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement provincial du site Kivu.
Je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal, la grande édition du soir sur Radio Okapi. Merci à vous tous qui l'avez suivi.